Décryptage.
Sébastien Farcy.
Ce week-end, deux ennemis historiques se sont retrouvés. Les États-Unis et l'Iran, qui n'ont aucune relation diplomatique depuis près de 50 ans, les deux pays ont entamé des discussions dans le sultanat d'Oman, avec comme objectif, pour Washington, contenir le développement du programme nucléaire iranien et l'empêcher de développer la bombe atomique. Pour Téhéran, faire baisser le risque d'une confrontation militaire et réduire aussi les sanctions économiques qui affaiblissent le régime. Mais la route sera longue, sinueuse, surtout que c'est Donald Trump lui-même qui avait mis fin en 2018 à l'accord international sur le nucléaire iranien. Alors, que cherche aujourd'hui le président américain ? Au moment où Téhéran est affaibli, Donald Trump a-t-il les moyens de faire fléchir ce régime et de signer un deal sur le nucléaire iranien ? C'est ce que nous verrons ce soir dans Décryptage. Et pour répondre à ces questions, Benjamin Haute-Couverture est avec moi dans ce studio. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Et pour commencer ce décryptage, honneur au président américain, voici ce que disait Donald Trump juste avant la rencontre de samedi.
Nous avons des discussions directes avec l'Iran. Et je pense que chacun sera d'accord pour dire que trouver un accord sera préférable à l'alternative évidente. Et cette alternative évidente n'est pas ce vers quoi je veux aller, ou franchement, ce vers quoi Israël veut aller, s'ils peuvent l'éviter. Donc nous allons bien voir si l'on peut l'éviter.
Alors Benjamin Haute-Couverture, des discussions directes, disait Donald Trump en se félicitant, des discussions qui n'ont pas été si directes que cela. L'atmosphère était d'ailleurs quelque peu froide à Oman.
Oui, alors l'enjeu a semblé se concentrer sur cette question de la modalité précise de la discussion. Est-ce qu'elle serait directe ou indirecte ? Alors, on sait très bien que pour Donald Trump, l'auteur je ne me rappelle plus comment ça s'appelle.
The Art of Making a Deal.
C'est ça, the Art of the Deal. Trump, The Art of the Deal, parce qu'il n'est que co-auteur de ce livre, de 1987. L'enjeu principal est d'avoir une négociation directe. Et les Iraniens ne voulaient absolument pas de cette négociation directe. Donc il semble que pour le moment, la négociation à Oman n'ait pas été directe, même s'il y a eu quelques minutes d'échanges polis entre l'envoyé spécial américain et le ministre des Affaires étrangères iranien. La question qui va se poser maintenant pour la suite, samedi prochain à Rome, tant est qu'il y ait, mais a priori il semblerait y avoir une deuxième phase de négociation, serait peut-être celui-là, c'est-à-dire d'avoir cette fois une partie au moins des négociations directes, et on peut même se demander si le choix de Rome et donc du gouvernement de Meloni ne serait pas fait pour aider à la mise en place de moyens, de trucs qui permettraient d'avoir au moins une partie de la deuxième séquence directe. Mais non, pour le moment, les négociations n'ont pas été directes, elles ont été indirectes. Cela étant, d'une part, elles ont été. D'autre part, il y aura bien un deuxième round assez vite. Et donc, on est dans un timing qui respecte l'impatience du président, puisque Donald Trump a donné 2 mois à l'Iran pour arriver à conclure un deal avec lui. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, même si, effectivement, les négociations n'ont pas été directes et que les Iraniens, eux, évidemment, ne s'impatientent pas.
Et pour que nos auditeurs comprennent un peu, prenons un peu de recul, je le disais, nous avions déjà, avant 2018, un accord multilatéral sur le nucléaire iranien. Il avait été signé en 2015 par les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, l'Union européenne et l'Allemagne. Il prévoyait alors un contrôle serré du programme nucléaire iranien, justement ce que cherche apparemment le président américain, et tout ça pour lui éviter d'obtenir la bombe en échange. Mais c'est Donald Trump qui a déchiré cet accord. Alors pourquoi ? Pourquoi a-t-il déchiré cet accord qu'il cherche tant aujourd'hui ?
Alors, il y a au moins 2 raisons, si on revient à 2018, à mai 2018 précisément, pour lesquelles Donald Trump a souhaité sortir de cet accord, ce d'ailleurs qu'il avait prévenu alors même qu'il était candidat. La première chose, c'est, on l'a un petit peu oublié aujourd'hui, c'est que c'était un accord qui avait été acquis par son prédécesseur, Barack Obama, et ça l'a particulièrement agacé. La deuxième chose, c'est qu'il estimait que c'était un mauvais accord. Pourquoi ? D'une part, parce que cet accord ne mettait pas un terme au programme nucléaire, mais permettait de gagner du temps sur la résolution définitive du dossier nucléaire iranien. Donc c'était, de ce point de vue-là, un résultat un petit peu en demi-teinte. Et puis surtout, c'était un accord qui ne traitait que du nucléaire. Or, à l'époque, Donald Trump disait, et d'ailleurs pas mal de diplomatie occidentale lui emboîtait le pas, il ne faut pas seulement traiter de la question nucléaire, outre qu'il faut la traiter d'une manière définitive, mais il ne faut pas seulement traiter celle-là, il faut aussi traiter la question de la politique régionale de l'Iran et la question des capacités balistiques de l'Iran. Or, l'Iran, on le sait, ne voulait absolument pas entendre parler de ces deux autres volets depuis, je crois, janvier 2012, quand a commencé la négociation conduisant finalement à l'accord de juillet 2015. Donc, l'une des premières choses que Trump a faites en arrivant, c'est dire... Je ne veux plus de cet accord, c'est un mauvais accord. Celui que moi je ferai quand j'aurai exercé une pression maximale telle qu'ils seront exempts à genoux et qu'ils ne pourront pas faire autrement que d'accepter mes conditions, sera un bien meilleur accord.
Et c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui, donc un contexte très différent. D'un côté, l'Iran, libéré de cet accord, a enrichi de plus en plus, donc se retrouve de plus en plus proche d'obtenir l'arme militaire, la bombe atomique. Et de l'autre, nous avons un contexte au Moyen-Orient qui a beaucoup changé. L'Iran est affaibli, Donald Trump se sent tout puissant. Qu'est-ce qui pousse les deux acteurs aujourd'hui à revenir à la table des négociations ?
Alors vous savez, première chose, l'Iran n'est pas libéré de cet accord. En réalité, l'Iran, lui, à la différence des États-Unis, n'est pas sorti de l'accord. Donc ils sont toujours redevables des obligations contractées au titre du JCPOA, comme le sont du reste les autres parties prenantes de cet accord. Seuls les États-Unis en sont sortis. Par conséquent, pour le moment, les sanctions internationales, multilatérales, n'ont pas été réimposées à l'Iran. Ce sont uniquement les sanctions américaines qui ont été imposées à l'Iran depuis 2018. En revanche, pour faire face à cette sortie unilatérale brutale des États-Unis de mai 2018, les Iraniens ont grignoté peu à peu depuis 2019 leurs obligations au titre du JCPOA tout en restant dans l'accord, mais à la limite d'en sortir et en utilisant la menace d'en sortir vis-à-vis des autres parties prenantes à l'accord que sont la Chine, la Russie, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France et l'Union européenne en tant que telle. Et depuis 2019, on est dans cette espèce de jeu où les Iraniens respectent de moins en moins leurs obligations, mais continuent tout de même de les respecter un petit peu. Mais enfin, ils enrichissent maintenant à 60%, à 20%, alors qu'ils n'avaient pas le droit d'enrichir à plus de 3,67, etc., etc. Mais si on rentre dans le détail, finalement, ils ne respectent quasiment plus leurs obligations au titre de l'accord. Et aujourd'hui, ce qui change les choses, c'est que, comme vous l'avez dit, ils se sont dans un état de faiblesse considérable du fait des campagnes militaires réussies d'Israël contre le Hamas, contre le Hezbollah, contre les Houthis, du changement de régime brutal en Syrie qui coupe une partie des approvisionnements et du lien qu'ils pouvaient avoir et de leur profondeur stratégique. Ils se retrouvent là, attaqués de toutes parts, contraints par un Donald Trump qui menace de bombarder ou de laisser bombarder des installations nucléaires ou militaires iraniennes. Et par conséquent, un petit peu acculé, et tout de même, il y a aussi la volonté du nouveau gouvernement, du nouveau président iranien, de renouer avec des négociations, alors que son prédécesseur, lui, très conservateur, préférait ne plus entendre parler des Occidentaux et de possibles négociations avec eux. Et donc, nous avons un Iran qui, de ce point de vue-là, est dans une situation de faiblesse et se sent un petit peu contraint d'accepter, au moins pour le moment, pas d'accepter les conditions américaines, mais d'accepter de re-rentrer dans le jeu, sachant qu'ils ont tout de même deux cartes importantes dans leur jeu, qui est le soutien très fort et de plus en plus affirmé de la Russie et de la Chine.
Et justement, ce programme nucléaire, il est au centre de toutes les attentions, mais il coûte cher à l'Iran, en tout cas en termes économiques. Les sanctions américaines sont encore très fortes. Ça appauvrit le régime, ça appauvrit le pays et la population. Pourquoi est-ce que l'Iran est si attaché à ce programme nucléaire ?
Oui, effectivement, on peut se le demander, parce que sur un plan économique, c'est un calcul qui, pour le moment, s'est avéré vraiment très très désavantageux. 2024, une inflation de 35%, je crois, etc., une économie qui est exsangue. Et cela étant, remarquez tout de même une chose, c'est qu'on dit que l'économie est exsangue et que les Iraniens sont à genoux et demanderaient n'importe quoi depuis 2018, et on est en 2025. Par conséquent, on voit aussi que c'est une économie qui fonctionne tout de même en dépit des sanctions américaines depuis lors, même si la population paye cher, naturellement. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Iraniens ont pris la décision de se doter de leur nucléaire. Donc, ils en sont toujours dans, depuis 25 ans, une politique que l'on pourrait qualifier de décider, de ne pas décider, mais d'avancer coûte que coûte pour qu'un jour, si ils estiment au plus haut niveau que politiquement, stratégiquement, militairement, se doter de l'arme nucléaire devient une nécessité pour la fonction de dissuasion de leur politique de défense, alors ils le pourront relativement vite, c'est-à-dire en l'espace de quelques mois ou possiblement un an au maximum. Parce qu'une fois qu'on a de la matière et qu'on a une charge, encore faut-il la militariser, la vectoriser et pouvoir l'utiliser. Donc si on rentre dans ce détail, les calculs selon lesquels en quelques semaines l'arme nucléaire sont des calculs un petit peu farfelus, si vous voulez.
Quelques mois,
ou une bonne année, il pourrait se doter d'une arme nucléaire. Après, qu'est-ce qu'on fait avec une arme nucléaire ? Pas grand-chose, figurez-vous, parce qu'à partir du moment où vous avez une arme nucléaire, d'abord, vous pouvez vous faire décapiter. D'autre part, si vous l'utilisez, c'est fini, vous avez joué toutes vos cartes. Donc, tant que vous n'avez pas une capacité de seconde frappe, vous n'avez pas de dissuasion possible avec votre arme nucléaire. Par conséquent, avoir l'arme nucléaire en tant que telle, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, il faut faire bien attention avec ça. Pour le moment, le programme nucléaire, qui probablement est devenue une caractéristique un petit peu identitaire du régime, parce que ça fait un quart de siècle qu'ils le poursuivent, donc il n'est pas question pour eux d'arrêter l'enrichissement de l'uranium, de ne pas se doter éventuellement d'une arme nucléaire s'ils le décidaient. C'est une caractéristique du régime, c'est une caractéristique du nationalisme iranien, et donc je ne vois pas que chez eux, il puisse y avoir des motivations sérieuses pour abandonner ce programme. C'est-à-dire rétro-pédaler pour abandonner tout ce qui a été fait. Et eux-mêmes, d'ailleurs, le reconnaissent aujourd'hui auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, disant « Nous ne pouvons pas désinventer tout ce que nous avons appris avec maintenant plusieurs générations d'ingénieurs nucléaires qui savent produire de la matière fissile, qui connaissent le fonctionnement de l'enrichissement des centrifugeuses, etc., et qui, par ailleurs, ont un programme balistique tel qu'ils vont pouvoir un jour, probablement, emporter une charge s'ils le décident. Donc tout cela est devenu constitutif d'une forme de dissuasion, de
souveraineté, peut-être
et de souveraineté, à l'évidence, mais sur lequel il n'y a pas encore de décision prise, comme les puissances nucléaires dotées aujourd'hui ont pu le faire dans leur histoire.
Et donc, on entend Donald Trump négocier aujourd'hui avec un pistolet sur la tempe. Vous avez deux mois où on attaque. Israël aussi semble très prêt à attaquer. Donc ça, c'est le risque d'un échec possible de la négociation. Quelles seraient en fait les conséquences de telles attaques ? Qu'est-ce qui se passe si demain Israël attaque les installations nucléaires de l'Iran ? Est-ce qu'on embrase toute la région ?
Écoutez, d'abord, pour en arriver là, il faudrait qu'il n'y ait pas d'accord nucléaire du tout. Or,
Oui, mais on connaît l'impatience de Donald Trump qui ne va pas attendre des mois et des mois.
Donald Trump pourrait se satisfaire d'un accord. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit qu'est-ce qu'il souhaitait absolument qu'il y ait dans la substance de cet accord. Qu'est-ce qu'on a appris de son envoyé spécial ? C'est que la ligne rouge à ne pas traverser, c'était la militarisation du programme. Vous vous rendez compte, comme la barre a été relevée depuis des années, il y a des années, il était inconcevable qu'on accepte que l'Iran enrichisse de l'uranium ou retraite son plutonium. Aujourd'hui, on a mis la barre à non à la militarisation de votre programme. Donc la barre est quand même très haute. Et on peut tout à fait imaginer que la barre étant mise aussi haute, ils vont trouver un compromis qui sera acceptable pour les deux parties. Et effectivement, il y aura un accord. Et ça suffira à Donald Trump pour dire « j'ai eu un accord ». Un accord qui ne sert pas à grand-chose, qui ne fait que repousser un problème qui va se reposer et qui s'oppose tous les jours aux intérêts de sécurité israéliens, mais qui, pour lui, aura été réglé parce qu'il a eu son accord. Donc, le bombardement des installations nucléaires iraniennes de telle sorte que le programme n'existe plus, très honnêtement, je n'y crois pas pour cette raison-là. Ensuite, une grande partie de ce programme est enfouie, est clandestin. Et par conséquent, pour pouvoir l'atteindre de manière militaire, il faudrait des bombes qui soient des missiles qui puissent aller extrêmement loin dans la perforation de systèmes très durs, très protégés. Et donc, ce qu'on pourrait attendre de campagne militaire, ce serait de gagner du temps. De la même manière que la contre-prolifération militaire, par assassinat, campagne d'assassinat d'ingénieurs, etc., que font les Israéliens depuis maintenant fort longtemps, leur permet de gagner du temps. Donc on continuera sans doute de gagner du temps, mais ça ne réglera pas le problème. Donc, personne ne peut dire à coup sûr ce qui va en sortir. Moi, je n'ai pas de boule de cristal, ça fait 25 ans que cette histoire dure. Ce que je sais, c'est que jusqu'à présent, les Iraniens ont toujours su lâcher suffisamment de lest pour ne pas en arriver là. Ils sont dans un état de très grande faiblesse aujourd'hui et ils sont soumis à une pression interne de la population qui est extrêmement forte et je pense qu'ils ne pourraient pas se payer le luxe de bombardements intensifs de la part des Américains et des Israéliens.
Mais une question assez basique, si jamais une bombe tombe sur une installation nucléaire, est-ce qu'il y a un danger de contamination ? Est-ce qu'on peut vraiment avoir des radiations, quelque chose ? C'est quand même pas anodin de bombarder des installations d'enrichissement nucléaire.
Alors bien entendu, mais ça dépend de quelle installation on parle. Il ne serait pas question de détruire un réacteur nucléaire et de laisser sortir des matières radioactives. On peut tout à fait détruire... Enfin, il y a un certain nombre d'options, si vous voulez, pour détruire parmi les installations nucléaires existantes, ce qui vient en soutien, en support du cœur du programme, puisque le cœur du programme, de toute façon, lui, c'est l'enrichissement, ce sont les centrifugeuses, elles sont à Natanz, elles sont à Fordo, elles sont profondément enterrées, enfouies, protégées, et probablement qu'elles ne seraient pas, en tout cas, suffisamment atteintes. Donc non, le risque ne serait pas un risque de radiation massive. Très probablement, non.
D'accord. Et est-ce que Israël et les États-Unis sont donc préparés à le faire ? Ils ont amassé des troupes dans l'océan Indien. Israël se prépare aussi. Donc on est face militairement à quelque chose de faisable.
En tout cas, une opération militaire peut être conduite. Les installations, encore une fois, sont nombreuses, sont éparpillées. Il y a beaucoup de sites. Il s'agirait plutôt, me semble-t-il, si jamais on devait en arriver là, mais encore, je ne fais pas partie, moi, de ceux qui pensent que c'est une option réaliste et utile, disons, ce pourrait être une action militaire contre une installation, pas la plus critique, qui consiste à montrer que ce pourrait aller plus loin, que l'escalade pourrait aller plus loin, qu'il serait capable de bombarder d'autres installations si un accord, ne serait-ce qu'intérimaire, n'est pas conclu. Donc ce serait plutôt de cet ordre-là, me semble-t-il, mais je n'y crois pas trop pour le moment, en tout cas à court terme. Pour l'instant, encore une fois, les négociations ont commencé. Il y a au moins 2-3 mois, il y a au moins jusqu'à cet été. Si au mois de juillet, il ne s'est rien passé, peut-être alors on pourra rentrer dans une forme d'accélération de la pression.
Benjamin Haute-Couverture, merci.